Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je ? » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu.
Elle est belle cette profession de foi de Pierre. Tu es le Christ. Chez saint Marc, c'est très bref, c'est très net. Il n'y a pas de rajoutis. Tu es le Christ, basta. Cette question, elle nous est posée à chacun d'entre nous, au-delà des mondanités, au-delà des ragots, au-delà des avis différents et des opinions. Pour vous, qui suis-je ? Demande Jésus. Je ne vous demande pas de me dire ce que vous en pensez, c'est-à-dire je ne vous demande pas de faire une religion à votre manière, qui vous ressemble, parce que c'est une tentation de temps en temps. Moi, pour moi, le Christ, c'est ceci, c'est cela. Pour moi, la religion, je pense ci, je pense ça. Non, la Trinité, non, je pense pas que ce soit très utile. L'Eucharistie, oui, d'accord, mais enfin, bon, la présence réelle, je suis pas sûr. La Sainte Vierge, oui, c'est pas mal, mais vous voyez, je vais un peu faire mon marché dans le supermarché de la foi, la religion. Et puis, je vais interroger, oui, le Christ pour moi. On fait faire de temps en temps des professions de foi comme ça aux enfants, c'est dramatique. Alors, dites ce que c'est pour vous. Je me rappelle souvent cette question qu'on m'a posée à l'eau vive ou ailleurs. Mon père, moi je voudrais bien croire, mais qu'est-ce que je dois croire ? Elle est belle cette question-là. Qu'est-ce que je dois croire ? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Église croit ? Qu'est-ce que le Christ enseigne de lui-même ? Et Jésus interroge les disciples. Oui, mais bon, c'est bien ce que vous dites, pour les uns, je suis Jean-Baptiste, pour les autres, Élie, pour un des prophètes, mais pour vous, c'est-à-dire pour vous, pas ce que vous en pensez comme ça en surface, au fond de votre âme, qu'est-ce que dit l'Esprit-Saint ? Interrogez l'Esprit-Saint qui est au fond de vous-même, quelle est votre foi ? Tu es le Christ, je l'affirme, tu es le Christ. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Ben bien sûr, on ne comprend pas tout de la foi. Mais je sais que tu es le Christ. Je le sais. Chez saint Luc ou saint Matthieu, Jésus le confirmera. C'est l'Esprit-Saint qui t'a inspiré cela. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est mon Père qui, par l'Esprit-Saint, t'a inspiré cette parole. Oui, c'est vrai, je suis le Christ. Je suis le Seigneur et le Maître, dit Jésus le soir du lavement des pieds. Vous m'appelez ainsi et vous avez raison parce que je le suis réellement. Si je vous ai donné cet exemple de vous laver les pieds, c'est pour que vous fassiez de même vous aussi. Tu es le Christ. Et aussitôt, Jésus leur défendit vivement de parler de lui à personne. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que Jésus est si sévère pour qu'on n'en parle pas? Il y a en réalité un abîme entre ce que les disciples attendent du Christ et ce que le Christ est réellement, ce qu'il va révéler de lui-même. On attendait dans ce monde-là un Messie puissant, un Messie puissant à la manière des hommes, un Messie qui puisse chasser les Romains, retrouver la royauté en Israël. Les disciples pensent tellement que le jour même de l'ascension, c'est-à-dire 50 jours après la Pentecôte, 40 jours après la Pentecôte, les disciples sont encore là. Est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël? Jésus est bon, il perd pas patience, mais de temps en temps quand même, c'est dans l'évangile de saint Marc, Jésus il va un peu plus fort, mais vous avez donc l'esprit bouché, jusqu'à quand est-ce que je devrais vous supporter? C'est vrai qu'il y a un abîme entre ce que les disciples attendent, un Messie puissant, puissance à la manière des hommes, et puis ce que Jésus va révéler de lui-même, lui qui était de rang, qui l'égalait à Dieu, dit saint Paul aux Philippiens. Il n'a pas revendiqué ce rang qui l'égalait à Dieu, mais au contraire, il a pris les conditions de serviteur, il s'est fait homme, reconnu homme à son aspect, et il s'est fait obéissant, obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit au ciel et sur la terre. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, c'est ça cette espèce de révolution formidable que le Christ propose, révolution de nos mentalités, révolution de nos pensées, révolution dans notre foi. Le Christ, la puissance de Dieu, c'est une puissance humble, douce, délicate. Venez à moi, vous tous qui pleurez. Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif de justice. Venez à moi, vous, les humbles de cœur, les cœurs purs, les artisans de paix. Venez à moi, vous tous, contre qui on dit des tas de choses mauvaises, vous qui êtes persécutés, vous qui êtes insultés au nom du Fils. Moi, je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Tellement doux et humble de cœur qu'il ira comme l'agneau qui va à l'abattoir. Il ira vers sa passion. Il terminera nu, cloué sur le bois de la croix. Échec formidable, pense le monde. Échec retentissant, échec lamentable. Mais c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans un amour qui est plus puissant que la mort. L'amour a pénétré au-dedans de la mort. L'amour a vaincu. La vie a vaincu. Il est ressuscité. Il a transpercé la mort. Il a passé la mort. Mais évidemment, à ce stade de l'évangile de saint Marc, les disciples, comme les foules d'ailleurs, sont tellement loin de cette considération, tellement loin de cette conception de Dieu, de la puissance de Dieu, que Jésus ne veut pas qu'on s'en mêle les pinceaux et que Jésus ne veut pas qu'on fasse de contresens trop fort. Si les gens l'attendent selon leur mentalité, ils vont vouloir le faire roi tout de suite. Dans l'évangile de saint Jean, on voit Jésus qui, juste après la multiplication des pains, fuit dans la montagne pour prier tout seul parce qu'on voulait le rattraper pour faire de lui un roi. Non, Jésus veut leur montrer jusqu'où va cette mission, la mission du Messie, la mission de celui qui vient au nom du Seigneur. Le jour des rameaux, monté sur le petit âne, alors on pourra l'acclamer. Il est revenu enfin pour ce qu'il est. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et pourtant, quelques jours après, il se mettra à genoux devant les apôtres pour leur laver les pieds. « Toi, tu veux me laver les pieds ?» dit Pierre. « Jamais !»« Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre, dans sa fougue, est encore en attendant un Messie puissant. Rien ne peut lui arriver. Il faudra que Pierre aille jusqu'au reniement pour accepter enfin l'humilité, la pauvreté, la victoire de l'amour par l'humilité et la pauvreté. Alors Pierre, qui n'accepte pas cette vision des choses, qui n'accepte pas ce que Jésus est en train de leur dire pour la première fois, qu'il doit être maltraité par les anciens, par les scribes, qu'il doit être torturé, tué. Pierre, d'une façon d'ailleurs un peu délicate, prend Jésus à part. « Mais non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Arrière, passe derrière moi, Satan. Tes pensées sont celles des hommes et non pas celles de Dieu. » C'est un peu rude de la part de Jésus. Mais c'est remettre Pierre dans cette ligne. C'est vrai que Jésus est tenté, objectivement. Dans saint Marc, on dit seulement à la tentation dans le désert, qu'il est tenté, Marc ne précise pas les tentations, comme le font par exemple saint Luc ou saint Matthieu dans leurs évangiles à eux. Saint Marc note que Jésus est tenté, mais nul doute que ici c'est une des tentations que Jésus a ressenties, la tentation d'éviter la passion, la tentation d'éviter la souffrance. Passe derrière moi Satan. Satan, c'est bien celui qui tente, le tentateur, celui qui avait tenté autrefois Adam et Ève dans le jardin. Vous serez comme des dieux, capables de décider vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Tentation primordiale, ces tentations que nous ressentons tous. Ah, nous aimerions bien, nous aussi, un Messie sympathique, un Messie qui résout nos problèmes, un Messie qui va guérir maman, qui va faire que mon fils sera reçu à son examen, qui va faire que mes voisins sont moins emmerdants avec moi, vous voyez, on aimerait bien un Messie qui résout les difficultés. Puis au lieu de ça, je suis en train de me convertir, je suis en train de faire des efforts pour devenir chrétien, puis j'ai encore plus d'embêtements que d'habitude, il m'arrive des tas de tuiles, c'est des choses qui me tombent dessus, on me maltraite de tous les côtés, au bureau, on m'a humilié publiquement. Ah, c'est le chemin que Jésus a choisi pour lui, c'est le chemin que vous suivrez. C'est vrai, Jésus appelle les foules. Vous voulez me suivre ? Alors il faut prendre votre croix pour me suivre. Autre part, il le dira d'une autre manière, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à se mettre dans la tête. Parce que c'est tellement contraire à ce que nous imaginons de la religion. Il y a une religion qui résout nos problèmes. Non, Jésus n'est pas venu résoudre nos problèmes. Jésus est venu ouvrir un chemin de vie à travers nos problèmes, à travers les difficultés de la vie, à travers les souffrances de la vie. Jésus est en train de nous révéler que même nos difficultés, même nos épreuves, même nos échecs, même nos ruptures peuvent devenir un chemin de vie dans la mesure où l'amour est semé au cœur de ces difficultés. L'amour, la résignation, résignation humble, aimable, doux et humble de cœur. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais c'est celui qui la perd à cause de moi qui la trouve. Chemin de vie, c'est la foi, mais une foi qui agit. En reprenant la lecture de Saint Jacques que nous lisons aujourd'hui, Saint Jacques le dit bien, ça ne sert à rien de proclamer la foi, ça ne sert à rien de dire que vous êtes chrétien, si la foi ne se traduit pas concrètement par des actes. Si la foi ne se traduit pas concrètement par des actes d'amour, l'amour c'est très concret, ce n'est pas des paroles, des sentiments, c'est concrètement s'occuper des pauvres, concrètement s'occuper des petits, concrètement s'occuper de ceux qui sont mauvais, concrètement s'occuper de ceux qui n'ont rien. Et ça oblige à payer de sa personne. Et nous sommes tous autant que nous sommes en dette de ce côté-là. Nous sommes en difficulté parce que c'est difficile d'aimer les autres. Objectivement, c'est difficile d'aimer et d'aller jusqu'à bénir ceux qui nous persécutent, d'aller jusqu'à rendre le bien pour le mal. Mais c'est la seule manière de faire progresser le monde vers la paix. Si je me contente de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, c'est bien, mais on est dans un espèce de statu quo, un équilibre qui est toujours instable. Ce sera la loi du plus fort qui un jour ou l'autre va dominer. Si au contraire je réponds au mal par le bien, si je fais du bien à ceux qui me font du mal, alors je fais progresser le monde et l'humanité vers le bien, vers l'amour, vers la paix. C'est le chemin que Jésus nous propose. C'est un chemin exigeant, c'est un chemin difficile, c'est un chemin de douleur, oui, c'est vrai. Mais c'est un beau chemin, c'est un chemin qui rend heureux, d'une joie qui peut coexister avec les larmes, d'une joie qu'ont connue tous les saints, qui tous ont souffert à leur manière, mais d'une souffrance qui ne les a pas empêchés de devenir heureux, profondément heureux, heureux de répondre à l'appel, heureux d'appartenir au Christ, c'est-à-dire d'appartenir à l'amour. L'amour rend heureux. L'amour rend heureux, mais c'est une immense bataille. C'est cette bataille que la Vierge Marie a livrée toute sa vie. Elle n'empêche pas Jésus de mourir sur la croix. Elle l'accompagne. Elle l'accompagne jusqu'au bout. Elle pleure, mais elle est debout. Pas un geste d'impatience en elle, pas un mouvement d'impatience ou de colère. même quand les soldats percent les mains et les pieds de son fils, même quand les grands prêtres et les scribes rient et se moquent de lui et l'injurient, pas un mouvement de révolte, pas un instant où elle est impatiente. Elle accueille, elle accepte, elle offre sans cesse. La Vierge Marie, mère de toute offrande, Notre-Dame des douleurs, sa douleur est unie à celle de son Fils, c'est une douleur qui sauve le monde. Demandons la grâce dans cette messe d'accueillir ce chemin que le Seigneur nous propose, de l'accueillir humblement. Bien sûr, ça dépasse nos forces. Bien sûr, ça n'est pas humain. Ça ne peut être que surnaturel. Ça ne peut être que par la force de l'Esprit Saint. Demandons-en la grâce, les uns pour les autres et pour l'Église tout entière. Amen.